VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est midi à Libreville au Gabon. La Cour pénale internationale va donner le verdict du procès d'Almadi Al-Faki, destructeur de mausolées et autres lieux de culte à Tombouctou au Mali. Les faits se sont passés lors de l'occupation djihadiste à Tombouctou. Pour nombre de Maliens, ce procès n'a pas de sens dans la mesure où les lieux de culte ont été reconstruits. Et puis les vrais auteurs des exactions sont aujourd'hui à Bamako, sans être inquiétés. Nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le procès de Al-Faki est une première dans l'histoire de la CPI, mais aussi ça peut être une leçon pour les autres aventuriers.
Ils disent qu'ils courent entre 9 ans et 11 ans de prison ferme avec sursis. Pour moi, je ne suis pas du tout satisfait de cette peine. Je veux que ça soit une peine exemplaire pour que les suivants qui veulent tenter l'aventure après, que ceci-là sache que vraiment il y a une justice internationale qui est là, qui veut juger des gens contre ce genre de crimes.
Lassana Cissé, directeur national du patrimoine culturel du Mali.
Il a dit des choses moi, qui m'ont fait sourire. Il a été instrumentalisé par Acme et par Assad. Mais soyons sérieux, s'il n'épousait pas l'idéologie, il n'a pas fait que détruire. Il a coupé des mains et des pieds. Donc ça, c'est ridicule, quoi. C'est tout à fait ridicule. Maintenant, si on doit le libérer ou c'est pas le pardonner, bon, le pardon, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être sanctionné parce que nul n'est censé ignorer la loi. Il doit être sanctionné. Le pardon ne suffit pas.
C'est mardi que Almadi Al-Faki sera situé sur son sort. Au cours d'une audience qui ne dépassera pas 2 heures de temps selon un communiqué de la CPI, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Somalie a annoncé lundi qu'elle avait reporté à nouveau ses élections d'octobre à novembre en raison de problèmes administratifs et de sécurité. Le vote aurait dû avoir lieu au mois d'août, mais les autorités électorales soutenues par l'ONU avaient reporté le scrutin présidentiel au 30 octobre après des élections législatives prévues entre septembre et octobre. Hier, les autorités électorales ont annoncé un nouveau report. Les législatives se tiendront maintenant entre le 23 octobre et le 10 novembre et la présidentielle au plus tard le 30 novembre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Libreville, la capitale du Gabon, était calme ce matin et les habitants vaquaient normalement à leurs activités avant la prestation de serment du président Ali Bongo Ondimba. Quelques présidents africains, Mali, Niger, Togo et Sao Tome et Principe notamment, devraient assister à la prestation de serment de M. Bongo. La France est représentée par son ambassadeur à Libreville, tout comme les États-Unis, nous dit l'AFP. L'entourage du président Ali Bongo Ondimba a évoqué un gouvernement d'ouverture et émis une nouvelle critique envers la France avant son investiture pour un second septennat après sa réélection toujours contestée par l'opposition. Jean-Gaspard Ntoumé Aï est le porte-parole du candidat Jean Ping.
Je pense que le Gabon est dans une crise probablement la plus grave de son histoire. Combien de temps y restera-t-elle? J'espère le moins longtemps possible. Mais nous ne pourrons pas en sortir en niant la démocratie, en niant le suffrage de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas nous en sortir dans ces conditions-là. Monsieur Ping considère que c'est à lui que les Gabonais ont accordé le maximum de suffrages lors de l'élection présidentielle le 27 août dernier. Et ce n'est pas que lui qui le considère.
Jean-Gaspard Ntoutoumé Aï, le porte-parole du candidat malheureux à l'élection présidentielle au Gabon, Jean Ping. Nous en arrivons au magazine de ce journal avec le Burundi. La rentrée scolaire 2016-2017 a eu lieu. L'objectif cette année est d'améliorer la qualité et les performances du système éducatif national burundais avec la création d'écoles d'excellence. Mais un souci majeur pour les parents, plus de 80 000 élèves du secondaire qui n'ont pas réussi à leur examen national ne peuvent pas redoubler car ayant échoué à l'examen de l'école fondamentale. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, s'est rendu dans certaines écoles de la capitale. Reportage.
10 heures à l'école primaire du bassin 2 au centre-ville de la capitale. Des enfants en uniforme kaki jouent pendant la récréation. Des parents sont au tableau d'affichage pour connaître la nouvelle classe de leurs enfants. Après la récréation, les élèves accueillent une journaliste venue s'enquérir de leurs nouvelles. La directrice de l'établissement annonce qu'une nouvelle année a débuté avec des défis importants. Régine Chimpaï.
Nous sommes prêts à accueillir un effectif d'élèves, 1262 élèves. Nous sommes prêts à les accueillir, à les mettre dans les différentes classes.
Pas de problème matériel, de bouquins.
Avec le redéploiement, on m'a appris 4 enseignants. C'est beaucoup pour moi. Il n'y aura pas de suppléants en cas de grossesse d'une enseignante. Le matériel, nous avons le bouquet d'élèves, sont insuffisants, ils sont déchirés. Français 5e, ils sont un peu zizés. On peut nous donner d'autres livres de 5e, français 5e.
Cette année scolaire 2016-2017 commence avec de nombreuses réformes, comme celles relatives à la création des écoles d'excellence qui vont résorber les pénuries en cadre d'entreprises dotées de tangibles compétences. Mais plus de 80 000 élèves âgés de 13 à 17 ans qui ont échoué aux thèses de 9e et 10e année fondamentale n'ont pas où étudier, mais la ministre de l'enseignement secondaire ne revient pas en arrière. Janvier Diraïcha.
Quant à ceux qui sont en dessous de ce score de 90 points, ils pourront venir s'essayer de nouveau au concours de 2017 en qualité d'autodidacte. Mais puisqu'ils n'ont pas réussi au concours, ça veut dire que soit ils feront le métier et après aussi revenir faire le concours s'ils veulent.
Mais pour le syndicaliste Emmanuel Machandari, l'avenir de ces centaines de milliers d'enfants brondés s'annonce très sombre.
On propose que les enfants restent à la maison, quitte à ce qu'ils reviennent repasser le concours à la fin de l'année. Ça devient pratiquement impossible. Un enfant de la 9e ou de la 10e, il est encore très petit. Il ne sait pas s'encadrer. Il ne peut passer toute une année à la maison sans rien faire et lui demander de venir passer le concours. Et nous avons déjà constaté que le taux de réussite est très bas.
Nouvelle année scolaire débute avec beaucoup de réformes, certes, mais elle se heurte également à beaucoup de réticences. Que vont faire ces enfants brondés pendant une année, s'interrogent leurs parents. Quel sera leur avenir, des questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, à 6 semaines de l'élection présidentielle, Hillary Clinton et Donald Trump se sont affrontés hier soir dans le cadre du premier débat télévisé de la campagne, marqué par des échanges très houleux. Deux autres débats opposeront les deux candidats à la Maison-Blanche d'ici le vote du 8 novembre. Écoutez la réaction de l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, le républicain Herman Cohen.
Tous les deux se sont bien défendus, je crois. Il n'y avait pas beaucoup de fautes, mais en général, je crois que peut-être Mme Clinton avait terminé avec un avantage sur Trump.
On disait du candidat républicain qu'il ne maîtrisait pas tellement les dossiers. Qu'en a-t-il été ce soir?
Sans doute, il a réfléchi sur les dossiers. Il a parlé bien sur les questions de l'État islamique. Il a parlé sur les questions nucléaires. Il a parlé sur les sujets de commerce extérieur. Peut-être qu'il n'a pas totalement maîtrisé, mais il a beaucoup appris depuis quelques semaines.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le candidat Trump a beaucoup évolué par rapport à ce qu'il était aux primaires?
Surtout dans le comportement pour le débat. Il était beaucoup moins vulgaire. Il n'était pas vulgaire, il n'était pas arrogant. Pendant la primaire, c'était toujours moi. Regardez-moi, moi je suis bien, je suis grand. Il était beaucoup moins excité, il était calme, etc. Donc, il a beaucoup évolué. Mais sur la substance, sur les dossiers, je crois que Mme Clinton montrait qu'elle était beaucoup plus avancée dans la connaissance des dossiers, dans toutes les nuances, etc.
Vous avez dit que Mme Clinton repart avec quelques points de ce débat. Qu'est-ce que cela aura comme impact sur l'électorat, selon vous?
Je crois que Mme Clinton a besoin surtout de prendre les votes de M. Sanders. Vous vous rappelez que dans la primaire, c'était M. Bernie Sanders contre elle. Et Sanders a gagné sur les jeunes, les gens entre 18 ans et 35. Le défi pour Mme Clinton maintenant, c'est de reprendre ces jeunes qui sont très réticents. Ils n'ont pas l'air d'aimer Mme Clinton. Et je crois qu'avec ce débat, elle a commencé à regagner ces jeunes.
Hillary Clinton et Donald Trump repartent mardi en campagne dans des États clés de l'élection présidentielle de novembre après un premier débat télévisé, donc vif et tendu, qui a remis en selle la démocrate. Les deux prétendants à la succession de Barack Obama vont capitaliser chacun sur l'émission regardée par des dizaines de millions d'électeurs lors de meetings en Caroline du Nord pour Hillary Clinton et en Floride pour Donald Trump, deux grands États où ils sont au coude à coude. Et la Turquie a limogé 87 membres de services de renseignement pour des liens présumés avec la confrérie de l'ex-prédicateur Fethullah Gulen, accusé d'avoir fomenté le putsch avorté de Miger, a rapporté aujourd'hui l'agence de presse Anadolu. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est avec Henri Francisque dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.